Bonjour. Radio Grenouille invite l'association Zynga pour une émission littéraire à la découverte d'un ouvrage. Il s'agit de Marseille Carnor. Un titre qui est peut-être énigmatique en un premier temps, mais que nous allons certainement expliciter. Un livre dont l'auteur est Benito Pellegrin, professeur émérite des universités et écrivain. Zynga, Thérèse Basse, c'est une association donc qui en quelque sorte a pignon sur rue dans Marseille. Présentez-la rapidement.
Oui, donc Zynga a été créée en 1999 et nous travaillons autour de deux axes. Un axe accompagnement social et un axe promotion des cultures et des civilisations. Donc un axe plutôt culturel qui est tourné vers le dialogue et l'échange. Et nous nous retrouvons ici d'ailleurs dans le cadre de ce deuxième axe de travail.
Oui, une certaine harmonie effectivement avec la ligne éditoriale de Radio Grenouille, puisque vous avez entre autres comme objectif de réaliser des lectures débats.
Oui, tout à fait.
Et une collaboration avec des éditeurs qui vous paraissent donc en harmonie avec vos projets. Spécialement le livre de Benito Pellegrin a retenu notre attention. Pourquoi ?
Il a retenu notre attention parce que c'est un livre qui parle de Marseille. C'est un livre qui invite à rentrer dans l'histoire politique, sociale, économique et même culturelle de Marseille. C'est un livre qui invite à rencontrer des personnages et qui nous permet à un moment donné de nous reprojeter en partant des années 50, puisque c'est un livre qui se pose dans les années 50, mais qui nous permet de nous reprojeter dans un aujourd'hui, dans le Marseille d'aujourd'hui et même dans le Marseille de demain. Donc ça a été une véritable rencontre. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons voulu faire cette rencontre et ce temps d'échange avec Benito Pellegrin, donc autour de son livre Marseille Carnor, parce que je le considère comme étant un livre majeur pour ceux qui s'intéressent à Marseille aujourd'hui.
Soulignons qu'il existe une résonance entre cet ouvrage et la couverture des quartiers nord par Radio Grenouille. C'est l'édition 888 Marseille son nord. Mais vous avez également au sein de Zynga quelqu'un qui promeut toute une couverture de ces quartiers. C'est Abraham Azir, réalisateur d'un film Marseille ébène.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment dans une continuité et un complément, parce que nous travaillons, nous nous intéressons énormément à la question de la diversité, de l'immigration et de la manière dont la société peut approcher ces questions. Donc nous constatons que souvent nous sommes dans une utilisation, une introduction de concepts, et ce qui nous intéresse c'est d'aller au fond de ces concepts et de voir d'abord ce qu'on y met et de rencontrer aussi des personnages et des acteurs de la ville qui sont porteurs de cette fameuse diversité et qui travaillent à valoriser les populations que l'on dit issues de l'immigration et que l'on continue à enfermer parfois dans des cases étrangères.
Alors pour mettre en scène l'ensemble de ce panorama, un immigré qui est Benito Pellegrin, il va nous expliquer comment il vit ou comment il a vécu ce statut. Une rapide présentation de l'auteur permet de retenir qu'il est universitaire, professeur émérite des universités, écrivain et dramaturge, mais aussi poète et musicologue. Benito Pellegrin s'est plus spécialement intéressé au baroque espagnol, puisque nous le verrons, il est issu de la péninsule ibérique, mais au baroque également, au-delà de ce centre de gravité qui est très important dans le mouvement baroque, au-delà de cela, au baroque en général. Et peut-être que justement son dernier écrit, Marseille Carnor, a une dimension baroque. Alors, Benito Pellegrin, pour le dire en un mot quant à la relation avec cet ouvrage, Marseille Carnor, est un écrivain qui a beaucoup de verve, beaucoup de gouaille, on le verra à la lecture, certains passages. Thérèse Basse, comment présenter aussi un petit peu le style de l'écriture tel que vous l'avez perçu ?
Je le définirais peut-être en un mot en disant que pour moi c'est une écriture vivante et c'est une écriture qui nous donne à rentrer dans le cœur de quelqu'un. Donc, et ce quelqu'un c'est Benito Pellegrin. À travers son style, à travers ce qu'il nous propose, on rentre mais de façon humoristique, dans l'histoire d'un parcours qui n'est pas facile et qui a eu des où l'on sent de la douleur, mais la distance qui nous est proposée à travers le livre est vraiment, je le trouve extraordinaire, parce que cela prouve qu'à un moment donné, on réussit, on peut prendre de la distance par rapport à ce qu'on a pu vivre et on peut le reprojeter de façon dynamique. Et c'est en cela que j'ai beaucoup aimé le style de Benito Pellegrin, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans qui est dans la victimisation. Au contraire, il est acteur, il avance, comme il dit, je suis un immigré qui s'intègre, et il est porteur d'un devenir, il est porteur d'humanité, et c'est en cela que c'est extraordinaire.
Charlie Chaplin disait de l'humour que c'est la politesse du désespoir. Il y a beaucoup d'humour dans Marseille Carnot. Il y a peu de désespoir et il y a un style très particulier. Alors, le sous-titre, cette chronique marseillaise, c'est une chronique d'un genre un petit peu particulier, bien qu'à l'origine, Benito Pellegrin ait rédigé un nombre d'articles pour la revue Le Ravi. Mais on a le sentiment que c'est quelque chose qui relève plutôt de portraits pris sur le vif et de l'invention donc d'un monde, n'est-ce pas? Un monde qui est très fort et qui est très coloré, n'est-ce pas Thérèse?
Oui, tout à fait, c'est une belle comédie humaine. Et c'est vrai que c'est un monde populaire, chaleureux, ce monde des quartiers nord que l'on ne retrouve plus aujourd'hui, parce que certains liens se sont brisés, des espaces de solidarité se sont brisés, et on se retrouve enfermé dans des individualismes, et puis en plus dans des situations personnel où on ne peut plus recréer, enfin on n'est plus dans cette chaleur humaine que l'on retrouve dans le livre de Benito, et c'est en cela que je redis à nouveau que c'est très intéressant, parce que si à un moment donné on souhaite réfléchir à la question du lien social et de la solidarité, il faut lire le livre pour comprendre certaines choses.
Oui, la force de cette chronique, c'est qu'elle a également une dimension qui est très proche de celle de l'essai, parce qu'elle restitue un certain nombre de problématiques sociologiques de cette époque, des années 50 et 60. Alors, on a toujours un petit peu quelques scrupules à vouloir tenter des comparaisons, mais c'est vrai qu'il y a là la création d'un monde qui est un petit peu laissé en jachère, un petit peu en déshérence. Marseille Carnot, c'est aussi une allusion à Marseille Carmonde. Pour autant, je l'ai dit, c'est tout un panorama qui est extrêmement truculent et, vous l'avez souligné Thérèse, qui ne sombre pas dans le désespoir. Alors, peut-être pour avoir déjà une illustration, peut-on commencer par une lecture? Je crois, Thérèse, que vous souhaitez lire un premier passage que vous avez dûment sélectionné, qui reflète bien justement cette verve qui est propre à ce livre.
Oui, c'est un premier passage qui permet aussi de comprendre le devoir de mémoire dans lequel s'inscrit Benito Pellegrin. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce premier texte. J'ai senti un désir de mémoire envers un quartier, une époque, des gens qui, malgré leurs divergences politiques, partageaient un devoir de solidarité. Quel que fût le racisme au quotidien, les derniers immigrés ne fermaient pas la porte au nez des nouveaux venus dans une France républicaine, laïque et accueillante. De cette France-là, de son école, même en me sentant toujours, aujourd'hui, exilé et orphelin, je me considère le fils. Et même l'héritier de ces valeurs, avec le devoir de témoigner dans ce livre qui est devenu une sorte de modeste fresque, émue et amusée, des années 1950 dans le Marseille ouvrier populaire des immigrés dont on ne parle guère. Ainsi, dans la belle revue Marseille sur les quartiers de la ville, les quartiers nord n'y sont guère évoqués qu'à travers leur partie noble.
Kateb Yacine disait de la langue française qu'elle était un butin de guerre. Chez vous, Benito Pellegrin, on a le sentiment que c'est plutôt un butin d'amour et que vous êtes projeté avec votre force dans cette langue, dans ce monde qui au départ n'est pas le vôtre, puisque il faut le situer d'un mot. Vous êtes donc catalan. Je ne sais plus quel...
Espagnol
de Catalogne. Je ne sais plus qui disait « je suis catalan, mais catalan du monde ».
Non, oui, catalan du monde, mais je suis aussi espagnol du monde et français du monde. Hein. Et justement, parce que vous évoquiez le baroque, hein, alors j'apporte un correctif. Le baroque, puisque j'ai donné une définition que je suis heureux ou inquiet de voir accepté partout, je définis le baroque comme un art d'accueil. Il naît en Italie, mais avec puis l'Espagne, puis l'Italie à cette époque-là et aux trois quarts espagnols, et se répand avec la colonisation espagnole et portugaise, se répand aux quatre coins du monde jusqu'au Japon. Et donc c'est un art que je dirais pratiquement œcuménique, même s'il servait des monarchies autoritaires au départ. Et je le définis comme un art d'accueil parce qu'il s'adapte partout, est adopté partout et il s'adapte, intégrant des éléments. Et je crois que là, dans ce que vous avez dit peut-être de ce goût du baroque, il y a aussi, j'ai fait un livre qui s'appelait « Éthique et esthétique du baroque », il y a une esthétique, mais qui est profondément une éthique, on ne peut pas séparer les deux. Et dans ce livre, vous parliez de style, eh bien oui, il y a divers styles, le style narratif, puisque ça raconte des histoires, l'histoire aussi, et style théâtral, puisque je mets en scène des personnages que j'ai créé, que j'ai inventé pour symboliser des idées, des sentiments, effectivement. Et j'en profite aussi, puisque vous avez parlé et que je ne l'ai pas fait, pour remercier et Radio Grenouille, et l'association Zenga, et Thérèse Basse, et Christian-Marie Moschetti, qui mène ce débat.
Alors nous sommes dans la capacité d'accueil, justement, ça devient un principe applicatif. Alors cette capacité d'accueil, elle est illustrée dans le livre Marseille Carnot, mais c'est aussi toute votre trajectoire, Benito Pellegrin.
Oui, je le vois évidemment avec le recul, désormais c'est sûr, avec un regard rétrospectif. Mais alors, être intégré, je sais pas, je mettrai beaucoup de guillemets, être intégré ou désintégré, je ne sais. Mais en tous les cas, si je suis intégré, c'est sûr, je me sens parfaitement français, parfaitement espagnol. Donc c'est sans reniement du passé, des origines, mais aussi capacité d'accueil ouvert au reste, ouvert au monde, ouvert à l'Europe, ouvert au monde. Je crois que ça, et c'est le baroque, et c'est la philosophie, alors... Même un peu naïvement, je l'accepte, je me réclamerai de cela.
Oui, l'ouvrage également, en quelque sorte, c'est un petit peu cette manière de tourner vers la réminiscence d'un passé qui n'est pas d'ailleurs toujours extrêmement favorable, mais en tout cas, un retour, ça fait penser d'une certaine façon à la recherche de Proust. Vous retrouvez, vous reconvoquez des personnages et une époque qui ne sont pas si lointaines, mais qu'on a tendance aujourd'hui peut-être à secondariser.
Oui, la référence, évidemment, dès qu'on parle du temps, on pense à Proust, et bon, je baignais dans Proust, je baignais toujours, mais il est vrai aussi que moi, je ne faisais pas de recherche d'un passé qui était pour des tas de raisons évoquées par Thérèse Basse, était dur, était violent, était vraiment. Mais c'est une interrogation plutôt du passé plutôt qu'une recherche. Et je n'ai pas voulu faire de recherche. Je suis un universitaire. Je n'ai pas voulu faire d'enquête. J'ai pas voulu mener de recherche historique, historicisante, même si les ambiances, tout cela, je pense, est juste. Et d'ailleurs, les personnes qui l'ont lu le livre et qui m'ont marqué, on dit que c'était très documenté, alors que je n'ai pas fait de travail de documentation, puisque je voulais faire un livre qui ne se pêche pas, qui ne soit pas plombé par une érudition qui allait contre mes objectifs, qui était de mettre en scène des personnages marseillais, mais marseillais immigrés de tous les horizons, qui deviennent marseillais, parce que la ville les accueille, bien mal, mais il y a une faculté d'accueil de la ville qui dépasse tous les clivages, finalement. Il y a une potentialité extraordinaire dans cette ville. Et j'ai voulu, c'est un acte d'amour aussi, voilà, à la langue française, évidemment, qui dans laquelle j'ai découvert les littératures. Et bon, je suis polyglotte, hein, mais essentiellement, le français m'a permis de revenir à d'autres, d'aller vers d'autres cultures, tout en approfondissant la mienne hispanique au départ. Et les gens que je mets en scène sont des gens qui viennent essentiellement des immigrés, mais qui deviennent marseillais. Et c'est aussi un portrait, alors oui, amoureux de cette ville étrange, Marseille, qui est une ville qui était la porte de l'Orient, une ville ouverte sur la rose des vents de la géographie de la mer, et qui s'est close pour des raisons historiques dramatiques, évidemment, puisqu'elle a vécu sur les colonies, il faut bien le dire aussi, par la perte des colonies, mais qui renferme sans doute, à mon sens, des richesses peut-être encore non exploitées pour avoir une autre floraison et peut-être une autre capacité supérieure d'accueil, au-delà de tous les problèmes que l'on peut rencontrer aujourd'hui et qui, à l'époque, paradoxalement, après la guerre, il y avait du travail pour tous, et cela a planifié évidemment des difficultés que nous voyons malheureusement si aiguës de notre temps.
Oui, une ville qui est restée en quelque sorte un melting pot, c'est un concept certainement que vous allez le dire, reprendre à votre compte. Vous qui avez aussi interrogé la notion de l'étranger, la notion de l'autre, la notion de la langue étrangère telle que le ressentait Jacques Derrida.
Melting pot, je ne sais pas si je peux souscrire absolument, parce que les gens que je présente, oui, il y a un facteur commun, ils veulent tous parler français à ce moment-là. Là, je peux en témoigner. Et ils ont un français à eux. Un français à eux qui se fabrique, mais avec une volonté, évidemment, d'entrer dans une langue qui n'est pas forcément la leur. Mais il y a plutôt des coexistences de communautés. Marseille est une ville qui a été formée par des villages. Les quartiers sont des villages, d'anciens villages. Et cet esprit de village, cet esprit de clocher, se retrouvait aussi pratiquement aussi de rue à rue. Il y avait la rue des Italiens. Il y a le boulevard des Italiens à la Camusel. Un boulevard d'Italien. C'était le boulevard, c'était la rue où habitait, je crois, Yves Montand. Il y avait le quartier des Espagnols, c'était plutôt Saint-André, Saint-Henri. Saint-Antoine, il y avait les Arméniens. Mais c'était quand même quand même ligoté dans des cultures qui se réunissaient à de grandes occasions, mais qui se combattaient à d'autres. Hein. Les matchs, les concours de danse à l'époque, de chant, ça donnait lieu aussi à des pugilats qui révélait aussi l'espèce de peur toujours de l'autre,
oui,
d'étrangeté, comme disait Freud.
Mmh. Oui, alors les géologues font souvent des carottes dans le sol ou dans la glace pour extraire un échantillon. Alors rien ne vaut sans doute mieux qu'un échantillon, je me permets d'en sélectionner un. Le voici. Dans la crypte, nous attendions l'heure. Toujours d'humeur malicieuse, Magda, pouffant de rire, tentait de tenir droit l'aile d'ange en papier de ma petite sœur en larmes.
Je me permets de dire que c'était une crèche vivante, hein, comme on en faisait à l'époque.
Vous avez raison de le préciser. Récalcitrante, malgré le fil de fer, Saint-Joseph s'arrachait les cheveux de ne pouvoir coller sa barbe. La Vierge Marie arménienne essayait des poses pieuses, inclinant la tête, joignant les mains, se regardait dans un miroir, remettait à ses lèvres du rouge baisé, dilué par la salive des chewing-gums qu'elle mastiquait, rajoutait du rimmel à ses yeux, consultait sa montre bracelet au poignet, et quand elle s'agenouillait, on voyait les talons aiguilles sous la robe bleue déjà prête pour le réveillon profane après la messe. Moi, dans mon coin, je faisais de la résistance, transformant par une casuistique réserve mentale les bras levés d'allégresse alléluiesque que me demandait le curé en V, churchillien de la victoire. Quand déboula Henri Bombelle, une sainte famille, le père, le fils et sinon le Saint-Esprit, madame et belle-maman, costume trois pièces, cravaté jusqu'aux yeux, Kodak en bandoulière, le monsieur, collier de perles, gants, chapeau et sac à main, les dames avec un adorable blond bombin, blanc, blanc, blin, blin, joignant les mains, le curé s'écria « Ah, voilà mon petit Jésus qui arrive enfin !»« Dis bonjour à monsieur le curé, pas bonjour l'oculé !» Et l'angelot opposa un mutisme farouche de ciel qui se ferme aux prières de la famille et aux risettes du curé. L'homme de Dieu finit par prendre le petit dans ses bras, le souleva plus haut que sa tête tonsurée, le jaugeant tendrement du regard. « Alors, qu'est-ce qu'on dit à monsieur le curé ?» Les présents, oreilles dilatées et sourire d'extase suspendu en silence aux lèvres du chérubin, entendirent résonner la petite voix dans la vaste crypte. « Melde, pédé !» Voilà donc un échantillon qui n'est que partiel, bien sûr, tout votre livre n'a pas ce ton, et justement c'est une vaste galaxie, un vaste archipel où, on l'a dit tout à l'heure, différentes tonalités sont mises en œuvre. Alors vous l'avez précisé tout à l'heure, pas fait le choix d'écrire un essai. Vous pensez que c'est justement quelque chose qui passe beaucoup mieux vis-à-vis du public ?
Oh, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup d'essais. Hein. J'écris des romans, j'écris des pièces de théâtre, j'écris beaucoup d'essais. Mais j'ai voulu aussi, puisque il y a, sans que ce soit complètement didactique, je me refuse au didactisme. C'est un monde que j'ai voulu évoquer, même s'il y a, oui, c'est un essai un peu sociologique, en présentant, mais théâtralisé, puisqu'il y a beaucoup ce sont des scénettes qui finissent toujours par une chute. Et donc, l'essai est perçu comme ça, puisque je suis invité à France Culture la semaine prochaine dans une émission qui présente des essais, où j'ai été invité pour mes autres essais, et donc qui ont ce titre, sous cette étiquette-là. Mais quand j'écris, et même les livres d'essais que j'ai faits, l'un a eu le prix de la prose et de l'essai, parce que j'essaie de casser le genre en introduisant de la poésie. Là aussi, il y a de la poésie dans la mesure où... je décris des lieux de Marseille, mais j'essaie de tout donner une tournure poétique de lieux un peu négligés. Et donc, il y a théâtre, il y a roman, il y a essai et il y a histoire. Donc, j'ai voulu mélanger tout cela. Donc, il y a des entrées diverses dans le livre, je pense.
Oui, un cocktail qui est riche peut-être, Thérèse Basse, peut-on encore avoir un aperçu de cette gouaille, comme je disais tout à l'heure, à travers une autre lecture ?
Oui, et je vais revenir sur deux aspects dont Benito Pellegrin, que Benito Pellegrin a évoqué tout à l'heure, son amour pour la langue, et puis je vais parler du déclin industriel de Marseille, Marseille-Porte d'Orion. D'abord son amour pour la langue, une petite description qui explique cet amour pour la langue. Sans autre considération pour mon niveau de langue française, on m'avait plongé dans une classe correspondant à mon âge dans l'urgence d'une année scolaire déjà entamée. Mais cette langue, à l'orthographe si étrange, m'avait fascinée et m'était aussitôt devenue comme une patrie oubliée et retrouvée, celle des livres que je découvrais et qui devaient m'accompagner toute la vie. Un autre petit texte sur la langue. Quant à moi, n'ayant jamais imaginé autre chose de ma vie qu'écrire, je m'aperçois que je restais et demeure dans un respect, une révérence presque religieuse de la langue française, apprise en apprenant sa littérature, ne me permettant presque aucun écart par rapport à sa norme, n'usant jamais un mot d'argot courant et des façons de parler à la mode jargonnante qu'affectaient mes amis français, plus libres par rapport à leur langue maternelle. C'est pour ça que le melting pot, je pense, était difficile à entreprendre.
Oui.
Sur le déclin industriel, je voudrais, parce que ça resitue aussi Marseille dans sa puissance, sur sa puissance industrielle, Marseille Porte d'Orient, et je crois que c'est aussi un des éléments importants de ce livre, parce qu'il permet quand même de mieux rentrer dans cette histoire marseillaise. Marseille, entre Joliette, Aran et le Merlan, début des quartiers nord. Squelette de bâtiments, docks déserts, usines délabrées, vieux silos en ciment déserté de grains perdus, anciennes minoteries, autrefois regorgeant de farine, de riz, huileries, savonneries, raffineries de sucre qui gardent encore au souvenir le tenace parfum, l'odeur rance, le relent du copra, de l'arachide, du colza ou de la canne à sucre, qui conservent des noms effacés des façades fantômes, pâtes caramélie, biscuits coste, huileries roux, sucre Saint-Louis, savon le chat, savon l'abeille, Javel Lacroix, messagerie maritime, réparation navale terrain. Hangars comme des bateaux à l'envers, quilles à l'air, échoués sur des molles désertés de navires fantômes, entrepôts désaffectés, friches industrielles, vestiges encore présents d'une grande déchue. Il n'en reste souvent que des toits défoncés, des pans de murs debout et des fenêtres vides, des ouvertures à garde ou suprêmes dérisions sur la muraille aveugle de moellons grisâtres en blocs dépareillés, l'éclat insolite d'une fraîche faïence colorée qui proclame encore « franco-indochinoise du riz ». Plus que vrai, et pauvre métissage culturel, sans doute réelle et prospère société mixte d'un colonialisme économique tranquille et fier de lui. Marseille, autrefois porte de l'Orient. Marseille d'aujourd'hui, ou de juste hier, malgré des signes de renouveau actuels. Qu'on espère renaissance avec 2013, millésime de la chance.
Oui, alors cette époque, celle des années 50 et 60 sur ce territoire des quartiers nord, voit également ce que j'oserais appeler des innovations. Innovations sociales parce que c'est la période de la reconstruction, parce qu'il y a des urgences sociales, et vous avez connu quelqu'un qui, en quelque sorte, avant, mais aussi pendant le mouvement initié plus tard par l'abbé Pierre, a été un pionnier dans ce domaine. C'est un portrait qui est extrêmement fort et je vous demande, s'il vous plaît, de resituer.
Ah, vous faites allusion, bien sûr, je le cite et c'est un hommage que je lui rends bien volontiers. Et d'ailleurs, j'avais fait un grand article, toute une page sur leur avis à l'occasion du mouvement des enfants de Don Quichotte. Enfants de Don Quichotte, nous le sommes parce qu'espagnol et nous le fûmes aussi puisqu'il y avait à cette époque-là un mouvement extraordinaire parti de Marseille qui s'est étendu à toute la France, le mouvement des squatters. Non, c'était la sortie, les années 50, c'était l'après-guerre. Il y avait les guerres coloniales qui prient, dont l'armement primait la reconstruction. Et il y avait une quantité énorme de gens qui étaient à la rue à Marseille, qui vivaient dans des caves, dans des lavoirs, dans des blocos, dans le manque que les gens se disputaient. Et donc, c'est chrétiens de gauche, dont à la tête M. Montarello et d'autres, donc je n'ai pas connu, mais lui, je l'ai connu, puisqu'il nous avait cédé l'appartement, il habite toujours, il est toujours vivant, heureusement, il est à Gardanne, avait ce qu'on appelait squatter, il y avait eu un squat, le premier squatter accroupi à Buckingham Palace, après en Angleterre. Et de là, cela a pris ce nom. Et des séminaires énormes qui étaient déserts, des châteaux, ce qu'on appelait, on appelle des châteaux, des campagnes ici, des maisons de maîtres abandonnées, et c'était squatté et occupé par des gens qui étaient à la rue. Et ce mouvement s'est étendu, il y a eu des juristes qui sont venus aider, l'abbé Pierre après a pris le relais, et le mouvement s'est étendu dans toute la région, puis de là à toute la France. Et donc, il y a eu aussi un mouvement juridique d'aide aux squatters. Même les grands bordels du Marseille maritime avaient été squattés. Il y en avait d'énormes. Les proxénètes, avec les policiers, avaient essayé de mettre dehors les squatters en faisant le coup de poing et même presque le coup de feu. Donc, c'est un mouvement extraordinaire de solidarité et de relogement.
Oui, vous savez en parler de façon là aussi extrêmement cocasse, puisque je cite dans le livre, c'est précisément la page 106 pour celles et ceux qui voudront s'y reporter, « Mais l'anglais n'avait pas envahi le parler populaire. » On dit squatter que je vous dis. Allez, ah, c'est scooter comme les Vespa italiennes, disait Madame Concetta Contarelli. « Va te coucher, va, répliquait Tati Yvonne. Pourquoi pas Solex, tant que t'es, que c'est moins bon français ?» Il faut acheter français, mais non, scooter avec deux os, scooter, quoi, voilà. Bon, alors, effectivement, il y avait aussi sans doute des moments qui étaient plus gais que cette situation ne l'imposait. Je crois même qu'on est peu de temps après la fin des tickets de rationnement, donc l'existence n'était pas du tout facile. Pour autant, donc, vous avez su tirer votre destin de toutes ces difficultés. Et vous savez, c'est Freud qui dit « le destin de l'homme est dans son nom ». Alors je me permets cette allusion, n'en prenez pas ombrage. Pellegrine, c'est pèlerin. Alors vous avez pèlegriné, vous avez fait tout ce chemin au milieu de grandes difficultés parce que, je me permets de le dire, votre modestie et votre pudeur vous a interdit pour l'instant de le mentionner. Mais votre père, qui était donc opposé au franquisme, avait perdu la vie dans les affrontements de la guerre civile. Donc vous êtes arrivé en France avec votre maman et avec vos deux sœurs. Donc néanmoins, cet accueil par la République française, par l'école française, a fait de vous quelqu'un qui est ouvert au monde et qui n'est pas fermé sur lui-même.
Merci. Je dois quand même corriger quelque chose malgré l'émotion. Mon père est mort après des suites, hein, puisque moi je n'ai pas connu directement la guerre civile. C'est ma préhistoire. Hein. Je n'étais pas né, mais ma sœur aînée, oui. Et c'est sûr que cette chance pour tous que donnait l'école de la liberté, égalité, fraternité inscrite sur ses frontons, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, hein. C'était la possibilité pour tous. Moi, je n'avais pas de ligne, je n'en ai pas plus aujourd'hui, ni de carrière, ni de rien, sinon de conduite, parce que là, on était, oui, dressé par ma mère de façon un peu rigoureuse à répondre à une certaine idée qui était celle de notre nom, parce que nous n'avons hérité qu'une chose, hein, un blason de la famille de mon père anarchiste qui était prolétarisé, et je vous le traduis, hein. Parce que c'est très symbolique, et avec une devise pellegriner pour l'honneur, pellegrinar por la honra, et avec un champ d'azur bleu qui représente le ciel, une bande d'argent qui représente la voie lactée, qui est supposée conduire à Compostelle, dont ma famille est originaire. Voilà pour le blason et pour les principes inculqués par notre mère que certains appelleraient préjugés. Mais ça aide à vivre, ça aide à rester debout. Et pour le reste, moi je réussissais en classe, je ne vendais rien, j'étais toujours très marginal, très très excentré. Et je réussissais, me faisait passer de classe en classe et j'étais le seul après la troisième, puisque les collèges des quartiers nord du moins que j'ai connus, le collège, s'arrêtait en troisième. Et moi, on m'avait envoyé au lycée dans la ville, que je ne savais pas ce que c'était un lycée. Hein, donc... Et donc, une suite de hasards, mais y a-t-il de hasards qui ont fait ce fil conducteur que j'ai échoué à l'université, même en ayant réussi, mais oui, j'ai échoué parce que sans choix aucun, hein. On m'a inscrit aussi, c'est quelqu'un qui m'a inscrit, un professeur du lycée Perrier qui m'a inscrit d'autorité à l'université que j'ignorais aussi. Et j'y ai réussi, mais j'y ai échoué parce que j'aurais fait autre chose, j'aurais eu des appuis, des habitudes, je n'aurais fait qu'écrire, mais bon, j'ai toujours écrit, hein, d'autant que je me connaisse, j'ai toujours écrit. Et j'avais la chance, j'écrivais des poèmes, j'envoyais dans les journaux, j'écrivais des histoires, une pièce de théâtre d'ailleurs à 15 ans, pour la radio, j'avais gagné un concours, voilà.
Oui, alors s'il y a une détermination dans le patronyme, il peut aussi y avoir une incompréhension. Et je lis, page 88 de Marseille-Carnor, quelques lignes. J'avais rempli ma fiche avec mon nom. Je revois ma grosse et maladroite écriture d'écolier qui avait appris seul à lire et à écrire. Je la lui apportais à mon tour au bureau. Il s'agit de l'instituteur. Lui, ajoutant à mon nom Pellegrine, un L en rouge, saignant à haute voix devant toute la classe, lança avec mépris. Et ça ne sait même pas écrire son nom. En effet, votre instituteur croyait qu'il s'agissait de Pellegrin, un nom qui est d'ailleurs plutôt originaire du sud de la France, mais il ne savait pas que c'était Pellegrine, tout simplement. Il y a donc là une certaine incompréhension. Est-ce que c'est cruel d'avoir, lorsqu'on est jeune, ce type de rejet ou ce type d'interrogation?
Ça a été une blessure extraordinaire pour moi, hein, même jusqu'à aujourd'hui, puisque m'écrire deux L, le nom de mon père, je n'avais que ce nom et le prénom Benito, qui était le nom de mon père. Je n'avais que celui-là, il n'avait que celui-là. Et depuis le 15e siècle, c'était comme ça dans la famille. C'était, puisque j'avais tellement honte pour plus m'entendre redire cela, j'ajoutais moi-même deux L avec un sentiment de trahison terrible envers mon père, alors que j'avais été élevé dans la dévotion de mon nom quand même, hein. Et surtout qu'on m'avait mis aussi Benoît à l'époque, les noms étaient francisés Benoît, alors une espèce de trahison. Et la ligne de conduite de ma vie, ça a été de récupérer mon vrai nom. C'est ainsi que je suis allé faire de la philo au lycée Perrier. J'ai accepté pour récupérer mon nom, l'écrire avec un seul L. Et Benoît, Bénite, je l'ai récupéré à mes 60 ans en faisant mes papiers.
Oui, tout vient à point à qui sait attendre. Vous avez de ce point de vue-là un certain parallélisme avec Salvador Dali, qui avait un frère aîné mort qui s'appelait Salvador Dali. Alors, vous avez donc le nom et le prénom de votre père. Alors maintenant, si on regarde un petit peu vers le futur, et sans pour autant abandonner une certaine nostalgie du passé, eh bien, votre livre s'ouvre également vers deux choses, vers le haut. Disons l'opéra, qui est une forme de transcendance, semble-t-il chez vous, dans votre perception, mais également donc qu'un futur, par exemple dans l'horizon de 2009-2013. Donc, simplement, vous pensez être optimiste? Marseille aujourd'hui a eu quelques vicissitudes depuis des années. Cette ville a souvent été calomniée, sans doute plus à tort qu'à raison. Mais on sent que vous la portez au cœur, que vous souhaitez pour elle un futur qui soit plus faste.
Comment ne pas souhaiter cela pour une ville dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous sommes inscrits et dans laquelle nous sommes même écrits, je dirais. Et là, c'est un aveu qui se passe de commentaires. L'opéra, oui, c'est aussi à l'époque, on nous amenait à l'opéra. Les écoles, on nous amenait à l'opéra et moi, j'étais émerveillé. Et chez moi, tout le monde chantait. Hein. Et j'ai gardé cela au cœur. Et c'est vrai que j'ai voulu mettre un chapitre sur l'opéra et aussi les concerts parce que c'était assez drôle. Je suis critique musical et je témoigne du tempérament théâtral et opératique des Marseillais dans ce chapitre.
Thérèse, je crois que vous brûlez d'envie encore de nous offrir un passage de Marseille-Carnot. On vous écoute.
Oui, c'est à l'évocation du nom, parce qu'effectivement, comme vous le dites, Benito Pellegrin, le nom est quelque chose d'important et le nom constitue l'identité de l'être. Et ça me fait référence à une certaine période où l'on voulait gommer le nom pour protéger les gens, mais enfin où l'on voulait gommer quand même le nom plutôt que de s'intéresser aux problèmes, aux réels problèmes de la société. Et donc un petit extrait sur le nom, d'ailleurs choisi par Benito Pellegrin. Moi que tout le monde, il connaît dans le quartier où je suis née, où sont nées toute ma famille et mes enfants, comme si on ne me connaissait pas comme une malpropre. Si les femmes ont gagné le droit de vote, je veux voter. Vous avez un brave toupet. D'autres, à ma surprise, car en Espagne, les femmes gardaient leur patronyme à l'appel de leur nom de jeune fille, s'estimaient insultées par l'assesseur ou le président du bureau. Dites-vous là, madame. S'il vous plaît, madame, pas mamzelle. C'est pas parce que je m'appelle Catherine de mon petit nom que je suis une Catherinette. J'ai un mari, moi. Mais madame, le nom légal, c'est le nom de jeune fille, pas celui du mari. C'est pas parce que mon mari, il serait pas légal, peut-être. C'est pas ça. Mais madame, les maris passent, le père reste. Mon Dieu, quel malheur! Mon mari passe, trépasse, je le perds, et en plus je perdrai son nom. Mais non, vous pouvez changer de mari, divorcer, pas changer de père. Jésus, Marie-Joseph, divorcer, il manquait plus que ça. Dites, vous me prenez pour qui? Pour une Américaine? C'est pas parce que vous êtes président d'un bureau que vous êtes président de la République ou député. Sinon, il n'y avait qu'à vous présenter vous-même à l'élection pour voir un peu.
Alors le temps nous est quelque peu compté, revenons au
livre.
C'est
le destin de chacun.
Absolument, absolument, les choses sont toujours sur la limite. Alors, Benito Pellegrin, votre ouvrage, vous comptez éventuellement, disons, le décliner, l'amplifier, ou pour vous il se suffit à lui-même?
L'amplifier... Non, je
par
ne
une
sais
transposition.
Pas. J'ai d'autres, au théâtre, puisque ce sont des scènes qui passent très souvent. Hein. Ce sont des avec les personnages, ce sont des scènes de théâtre avec une chute. Hein. Ça, oui, c'est du domaine du possible, parce que sinon j'ai d'autres livres en chantier.
Bien, pour Zynga, donc, à court terme, vous avez un nombre de projets dans vos cartons. On peut peut-être rapidement les rappeler.
Oui, bien sûr, nous allons travailler d'ailleurs avec l'accord de Benito Pellegrin sur autour d'une suite par rapport à Marseille-Carnot, parce que je le redis, c'est un livre que j'ai rencontré, qui m'a habité et aujourd'hui nous souhaitons poursuivre dans la réflexion et mettre en place des actions autour. Nous allons aussi nous prévoyons aussi une prochaine rencontre littéraire, mais ça, Marie-Christian, je vous en laisse parler. Et je vais peut-être profiter des dernières minutes qui restent, non pas pour parler des activités de l'association, mais j'aimerais qu'on revienne sur un pan liée à l'immigration et la perception que l'on peut avoir des personnes qui arrivent en tant qu'immigrées. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est important de se rappeler quelque chose. Et si ce livre est un devoir de mémoire, c'est important de le dire. Donc, si vous permettez, je vais faire juste une dernière petite lecture et ça sera pour moi la seule chose que je dirai après. Banlieue ouvrière, refuge de nouveaux immigrés indésirables qui devaient un jour basculer à l'extrême droite. Car soldée à peine la tragédie de Dien Bien Phu, qui fermait pour Marseille la porte de l'Orient, la nationalisation du canal de Suez par Nasser faisait de la Méditerranée une mer pratiquement close pour le port. L'Algérie d'en face larguait les amarres dans le sang et les larmes des rapatriés de la dernière heure. Pas assez riche pour s'échapper plus tôt, précédée ou suivie par les harkis, parqués dans des cités d'urgence dans un renouveau de crise immobilière et chaos d'immigrés. Les murs de la ville s'ornaient de Marseille aux Marseillais, les pieds noirs à la mer. Des hordes de gueux, des va-nu-pieds, sales, dépenaillés, déguenillés, affamés, braillards, géniards, des troupes de mendiants, repoussants, ne cessent de s'infiltrer dans le pays, semant la moquerie ou l'effroi. Ils vivent de charité, de chapardage. Ils sont bien sûr voleurs ou violeurs, au pire criminels. Au mieux, ils acceptent pour vivre, pour ne pas mourir, de faire n'importe quel métier, n'importe quelle sale besogne qui répugne aux nationaux. Pour des prix misérables, ils s'abaissent aux plus misérables offices. Pour tout bien, ils apportent des parasites car ils sont naturellement des parasites. D'autres mots les escortent et pour bagages, ils n'ont, à ce qu'on dit, que l'infection, la peste et le reste. À intervalles, ils sont l'objet de pogroms, de ratonnades, ce qui est logique puisqu'ils sont pareils aux rats, aussi repoussants que prolifiques et aussi dangereux. Ces gens-là, aujourd'hui, on les appellerait travailleurs immigrés, pauvres hères qui fuient la famine chez eux. Mais qui le devinerait de nos jours? Ces gens-là étaient non pas presque nos compatriotes, comme ont dit les évêques des immigrés, mais justement nos compatriotes, sinon nos contemporains d'aujourd'hui, à coup sûr ceux d'autrefois. Ces gens-là qui héritaient le nationalisme espagnol des XVIe et XVIIe siècles, c'étaient les Français. Le français était bien pour l'espagnol du siècle d'or l'exemplaire parfait de ce que l'on nomme de nos jours le travailleur immigré. Le français est un type répertorié de comiques de bas étage et involontairement la plupart du temps. La prolifération des français est telle, leur misère est si noire que malgré l'irritation du peuple choqué par cette aide sociale, les portes des couvents s'ouvrent pour leur donner une vitale pitance sans laquelle ils crèveraient de faim. À tel point que ce que la France appelle aujourd'hui soupe populaire sera nommé en Espagne sopa francesa, soupe française. C'est juste pour rappeler que pour tous ceux qui, à un moment donné, oublient de tendre la main à ceux qui arrivent dans un pays, qu'ils n'oublient pas qu'un jour, ils peuvent aussi se retrouver dans cette situation. Et ça, je pense que c'est aussi un moment important du livre.
C'est effectivement la toute dernière page du livre Marseille-Carnor. J'invite toutes nos auditrices et auditeurs à s'y reporter.
Et bon, si on veut des informations, on peut nous contacter directement à l'association au 04 91 08 14 33. Et l'association est située au 40A boulevard Voltaire, près de la gare Saint-Charles, donc dans le premier arrondissement.
Je rappelle donc le livre Benito Pellegrini, Marseille-Carnor, chronique marseillaise, édition Sulliver et non pas Gulliver, achevé d'imprimer très récemment en février 2009. Benito Pellegrini, merci de votre disponibilité
à
notre micro. Thérèse Basse, merci. À bientôt sans doute parce que ce livre mérite sans doute de nouvelles ouvertures. Merci encore. Au revoir.